Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2. Nous continuons notre étude de ce livre. Nous allons lire à partir du verset 5, mais nous nous focalisons sur le verset 10 à 13. Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 5. Et voici la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et jusque-là, la parole de Dieu. On a dans cette lettre aux Hébreux certaines des descriptions les plus remarquables, les plus puissantes de notre Seigneur Jésus-Christ. On l'a déjà vu comme l'héritier de toutes choses, comme le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, chapitre 1, versets 2 et 3. Dès le commencement, il est identifié comme le Fils de Dieu. Et tout au long du chapitre 1, il est présenté dans sa gloire, dans sa puissance actuelle. Il est vrai que on est tellement habitué à voir le Seigneur Jésus-Christ dépeint dans les évangiles avec son humilité, sa douceur, qu'on pense rarement au Seigneur comme il est actuellement, c'est-à-dire couronné de gloire, couronné d'honneur, régnant avec puissance dans le ciel pour son Église. Et dans les versets 10 à 13 que nous voulons considérer ce matin, nous en voyons deux choses de plus au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Il est le frère aîné de tous les rachetés et il est le pionnier de notre salut. Le verset 10 parle de Dieu qui veut conduire à la gloire beaucoup de fils, beaucoup de frères avec le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 11 nous dit que celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. Et il poursuit que le Seigneur Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Verset 12, le Seigneur Jésus promet de déclarer le nom de Dieu à mes frères. Et au verset 13, il identifie les vrais croyants comme les enfants que Dieu m'a donnés. Le premier grand point donc, le Seigneur Jésus-Christ, le frère aîné de tous les vrais croyants. Il est le véritable frère aîné, même si dans le monde, certains ne trouve pas l'image attrayante. Parfois, un frère aîné est plus un objet de compétition qu'un objet de confiance. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur des frères aînés. Il est une source d'inspiration pour les jeunes membres de la famille de Dieu, une source d'aide, une source de salut pour les frères et les sœurs spirituels qu'il aime très fort. Et dans le monde romain, le frère aîné était le seul héritier. Il recevait la totalité de la succession du Père. Et le Seigneur Jésus-Christ est entré dans son héritage en tant que fils premier-né de Dieu. Et nous sommes les co-héritiers avec lui. Nous sommes les co-héritiers en Christ. Et la bénédiction la plus importante que nous gagnons en ayant le Seigneur Jésus-Christ comme notre frère aîné, c'est l'entrée dans la famille de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement le frère aîné, il est le Fils naturel de Dieu. Et par grâce, en lui, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, à laquelle le Seigneur Jésus-Christ appartient comme le Fils légitime. Nous ne sommes pas frères et sœurs parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes plutôt enfants de Dieu parce que nous sommes les frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit en Éphésiens chapitre 1, verset 5, « Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Un commentateur explique, il dit, « Nous trouvons en lui, en Christ, la filiation, car il est le Fils. Les fils adoptés ont ce privilège dans le Fils éternel. » Pour amener les hommes sauvés dans une relation filiale avec Dieu, il fallait qu'un sauveur se tienne lui-même dans cette relation. Et ainsi, lorsque la plénitude du temps est venue, Dieu a envoyé son Fils afin que nous obtenions l'adoption de fils. Nous sommes adoptés en Christ. Et le Seigneur, pour ainsi dire, refait notre ADN spirituel en nous envoyant le Saint-Esprit dans le cœur pour faire de nous les véritables enfants, les véritables membres de la famille. On dit parfois que Dieu est le Père de tous. Et ce n'est vrai que dans un sens général, dans le sens de la création. Mais Dieu n'est pas dans une relation paternelle avec des pécheurs qui ne sont pas réconciliés avec lui. Parce qu'ils sont encore rebelles. Sa colère demeure toujours sur eux. Mais Dieu a créé une nouvelle famille, une nouvelle humanité, un nouveau peuple racheté par le Seigneur Jésus-Christ, le deuxième Adam. L'apôtre Paul écrit à ce sujet dans sa lettre aux Éphésiens. Il se réfère à la façon dont Dieu a pris à la fois les Juifs et les païens. Il a créé une nouvelle race par la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous dit l'apôtre Paul, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, juifs et non-juifs, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 2, versets 15 et 16. Et on devrait penser à nous-mêmes de cette façon-là, si on est croyant, si on est chrétien. On n'est pas avant tout une personne blanche ou noire ou brune ou n'importe quelle autre couleur. On est une nouvelle créature, une nouvelle création dans cette nouvelle humanité créée par Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est la communauté chrétienne qui est la mieux à même à transcender les barrières de l'existence humaine, car nous sommes un en Christ. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Alors bien sûr, chacun de nous a des associations qui vont nous définir dans cette vie, nos centres d'intérêt, nos occupations, notre lieu d'origine, mais notre union avec Christ transcende tout cela. En lui, on trouve nos cœurs qui sont plus étroitement lié avec les autres croyants qu'avec des amis de la famille, avec des collègues de travail ou avec des personnes qui conduisent la même voiture que nous ou le même type d'habitation. Nous avons une attraction plus forte envers ceux qui sont en Christ parce que nous faisons partie de cette même famille malgré nos différences. Il s'ensuit donc que nos attitudes, nos aspirations, nos motivations, nos actions ne doivent pas être dérivées de ce monde qui nous entoure, ce monde qui est incrédule, qui est rebelle, dans lequel nous sommes nés. Mais toutes nos attitudes, nos aspirations, tout cela doivent dériver de cette nouvelle association dans la famille de Dieu, à laquelle nous sommes nés de nouveau. Avec le Seigneur Jésus-Christ comme frère aîné, nous sommes enfants de Dieu. Et l'auteur nous dit deux choses sur cette nouvelle famille. Premièrement, il s'agit d'une fraternité de ceux qui sont destinés à la gloire. Verset 10, « Dieu en Christ conduit à la gloire beaucoup de fils. » C'est le but de la vie chrétienne. C'est la destination vers laquelle nous nous dirigeons. Dieu a créé l'homme pour partager sa gloire. Le problème, vous le savez aussi bien que moi, c'est que l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu, a vu cet héritage brisé par l'entrée du péché dans le monde. L'intention de Dieu pour ses enfants rachetés, c'est que ceux qui étaient perdus devaient être retrouvés et amenés à la perfection. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29, l'apôtre Paul nous dit que nous avons été choisis pour le salut afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. La deuxième description de la famille de Dieu fait essentiellement le même point. Le verset 11 dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Nous sommes nés de nouveau, comme le dit l'apôtre Jean, en Jean 1, verset 13. Nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, et nous, ses frères, nous sommes nés de Dieu. Bien sûr, chaque famille, on le voit sur le plan humain, chaque famille a ses caractéristiques distinctives. Dans certaines familles, ce qui ressort le plus, c'est l'intelligence. Dans d'autres, c'est la richesse. D'autres, malheureusement, c'est la paresse ou la violence. Quel est le trait distinctif de la famille de Dieu? C'est la sainteté. Cela signifie que le croyant recherche. Il désire être saint, il désire, il recherche, il poursuit la sainteté. Éphésiens 1, verset 4, Paul écrit « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Est-ce que nous avons cette perspective? Est-ce que nous avons conscience que nous réalisons ce conflit que l'apôtre décrit dans sa lettre aux Romains chapitre 7? Je veux être saint, mais l'aspiration, malheureusement, de beaucoup de personnes, y compris certaines personnes qui se disent chrétiennes, c'est de posséder beaucoup de choses et surtout la paix personnelle pour profiter de ces choses matérielles. Mais dans ce passage, il y a quelque chose de plus grand, un destin, un appel plus merveilleux. Nous sommes nés de nouveau en Christ. Christ est notre frère aîné. Nous sommes nés dans la famille de Dieu pour la gloire qui est la sienne, pour la sainteté qui distingue Dieu et ses enfants. C'est la poursuite de la sainteté. C'est la mise à mort de ce vieil homme, de revêtir le nouvel homme. C'est notre destin, c'est notre appel. Encore une fois, l'apôtre Paul en Éphésiens 4, verset 20 et suivant, il écrit ceci, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La vie ne consiste pas à gravir les échelons de l'entreprise, à amasser de l'argent ou à accumuler des expériences amusantes. Non, il sait poursuivre la sainteté. C'est pour ça que Dieu, parfois, nous fait passer par des épreuves, parce qu'elles tendent à renforcer notre dépendance de lui, à reconnaître que nous avons besoin de lui, et à marcher, à poursuivre cette marche avec lui. L'apôtre Paul nous dit que la volonté de Dieu pour notre vie, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères, parce que notre salut a pour objectif la sainteté. Afin de nous sanctifier, le Seigneur a pris sur lui notre nature humaine, afin que nous puissions partager son héritage. Il est devenu comme nous, afin que nous devenions comme lui. Il est venu là où nous étions, pour nous emmener là d'où il vient, pour que nous devenions comme lui, que nous soyons transformés à son image. C'est quelque chose que l'on ne peut pas éviter si on est croyant, et que l'on ne devrait pas vouloir éviter. On a été mis à part pour Dieu, par Dieu. Et il nous traite différemment de ceux qui ne sont pas ses enfants. Comme l'auteur de cette lettre le dira plus tard, les pères ne disciplinent que leurs propres enfants. Et par conséquent, la main de Dieu qui nous châtie dans cette vie nous assure que nous sommes ses enfants. Il y a un processus différent à l'œuvre dans la vie des chrétiens que dans la vie des autres personnes. Et bien sûr, il y a un destin qui est différent, qui nous attend. Le docteur Martin Lloyd-Jones écrit « Si Dieu est votre Père, vous êtes spécial, et c'est comme ça. Si la nature divine est en vous, qu'elle est entrée en vous par l'œuvre du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être comme les autres. Vous êtes différents. » C'est ce qu'on dit du chrétien partout dans la Bible. C'est que Christ habite richement dans le cœur, dans son cœur, par sa toute-puissance, jusque dans les profondeurs de sa personnalité. Il lui enseigne sa volonté. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le Seigneur Jésus-Christ est notre frère aîné, si nous sommes croyants. C'est lui qui nous conduit en tant qu'enfant dans sa famille. Dieu le Père assume alors le devoir de faire de nous des fils et des filles dignes. Me voici, dit le Seigneur Jésus, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il est le fils aîné. Mais il y a une deuxième description du Seigneur Jésus-Christ dans ce passage. Elle est encore plus frappante. C'est le deuxième grand point. Il est le pionnier de notre salut. Notre version, verset 10, nous dit qu'il est le prince de leur salut. Mais le terme grec, archégos, est mieux traduit par précurseur ou pionnier. Et un commentateur explique, il dit, il est le sauveur qui a ouvert la voie sur laquelle seuls les nombreux fils de Dieu pouvaient être amenés à la gloire. L'homme créé par Dieu à son image pour sa gloire a été empêché par le péché d'atteindre cette gloire jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne et ouvre par sa mort une nouvelle voie par laquelle l'humanité peut atteindre le but pour lequel il a été créé. En tant que représentant de son peuple et précurseur, il est maintenant entré dans la présence de Dieu pour y assurer leur entrée. Le Seigneur Jésus a ouvert un chemin qui nous conduit dans la terre promise, dans la vie éternelle. Il est allé là où nous ne pouvions pas aller, par ses propres ressources de justice et de vérité, par une vie de conquête totale. Il a ouvert la voie du ciel. C'est ce que le Seigneur a expliqué à ses propres disciples avant d'aller jusqu'à la croix. Il dit en Jean 14, versets 2 et 4, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et bien sûr, quand les disciples ont posé la question, il leur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et de même, l'auteur de cette lettre aux Hébreux a identifié le Seigneur Jésus-Christ comme le chemin, le pionnier, le précurseur en qui nous devons avoir confiance, que nous sommes appelés à suivre. Les premiers chapitres de la Bible nous disent dans quel sens on doit comprendre cela. Si le Seigneur Jésus-Christ est notre précurseur, quel est le chemin qu'il a ouvert pour nous? La réponse, nous l'avons dans les premiers chapitres de la Genèse. Genèse chapitre 3 nous rappelle la chute de l'humanité dans le péché, la malédiction, la colère de Dieu. Genèse 3, verset 23, l'Éternel Dieu chassa Adam du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Genèse 3, versets 23 et 24. Et le rituel qui a été instauré dans l'Ancien Testament était destiné à rappeler ce problème au peuple, tout en pointant du doigt la solution. En ce qui concerne le tabernacle, l'endroit où il rencontrait l'homme, Dieu a ordonné que les rideaux soient ornés de l'image des chérubins. Les chérubins ne sont pas des personnages mignons comme on voudrait les représenter, mais ce sont des êtres angéliques imposants, puissants. Et leur présence dans le tabernacle, même sous forme d'image, rappelait cette barrière qui se dresse entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Et les rituels qui ont été instaurés dans le tabernacle ont souligné ce point. Ils révélaient aussi la solution. Chaque année, au jour de Yom Kippour, le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, là où Dieu demeurait dans sa sainteté, et là il était devant l'arche de l'Alliance, cette arche qui contenait les tables de la loi, les 10 commandements. Au-dessus de l'arche se trouvaient 2 statues d'or de chérubins, leurs ailes levées vers le haut, leurs yeux dirigés vers le bas, fixés sur la loi de Dieu. Voilà la séparation de l'homme avec Dieu, voilà la colère de Dieu contre le péché. Les yeux de ces anges regardaient les exigences de la loi qui sont justes. Ils regardaient le souverain sacrificateur qui représentait la nation pécheresse et le verdict est tombé. Le salaire du péché, c'est la mort. Et alors qu'aucun homme ne pouvait résoudre ce problème, Dieu l'a fait. Sur l'arche de l'Alliance, il a une couverture. Une couverture de miséricorde, une couverture d'expiation, qu'on appelle le propitiatoire, où le souverain sacrificateur venait répandre le sang du sacrifice. Et cela ouvrait la voie, parce que maintenant, les anges, les chérubins et Dieu regardaient. Ils ne voyaient plus une loi violée à l'intérieur de l'arche. Ils voyaient le propitiatoire, sur lequel le sang d'un sacrifice convenable avait été versé. La justice de Dieu a été satisfaite, sa colère est détournée, la voie est ouverte aux pécheurs pour demeurer en paix dans la présence de Dieu. Et c'est par ce désert que le Seigneur Jésus-Christ nous a ouvert une voie, par sa croix, il a brisé le désert de la malédiction, de la colère de Dieu. Paul fait ce lien dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 25. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Et ce terme, propitiatoire, c'est le même mot qui est utilisé pour ce couvercle de miséricorde, le propitiatoire qui était sur l'arche de l'Alliance. Et c'est là où l'auteur de la lettre aux Hébreux va en venir. Quand il dit au verset 10 que le Seigneur Jésus-Christ a été élevé à la perfection par les souffrances. Les gens, certaines personnes rechignent parfois à l'idée que le Fils de Dieu doit être élevé à la perfection, étant donné qu'il était sans tache ou sans défaut dès le début. Mais il a été élevé à la perfection, non pas dans son caractère, mais dans son fonction en tant que Messie, en tant que Christ. Un commentateur explique: le Fils parfait de Dieu est devenu le sauveur parfait de son peuple, ouvrant le chemin à Dieu. Et pour devenir cela, il doit endurer la souffrance et la mort. Le langage d'être élevé à la perfection, de perfectionnement, a aussi l'idée de consécration. Les sacrificateurs dans le temple se perfectionnaient, se consacrent eux-mêmes au service de Dieu, en se lavant, en portant les vêtements sacerdotaux. Le Seigneur Jésus-Christ, nous dit un commentateur, était tout équipé pour sa charge. Dieu l'a qualifié pour venir devant lui dans cette action sacerdotale. Et il l'a élevé à la perfection comme sacrificateur de son peuple par ses souffrances, ce qui lui a permis d'accomplir sa mission de rédemption. Et l'auteur de cette lettre commence ici un thème qui va dominer une grande partie de cette lettre. Le Seigneur Jésus-Christ, le véritable souverain sacrificateur, vers qui tous les autres souverains sacrificateurs ont pointé. Le Seigneur Jésus-Christ a offert sa propre vie. Il a versé son propre sang pour ouvrir la voie aux pécheurs, pour venir à Dieu. Hébreux 9, verset 12, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et l'auteur continue au chapitre 10, verset 19 et suivant, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le Seigneur Jésus-Christ est le grand frère. Il est le précurseur. Mais le verset 10, troisième grand point, faites cette merveilleuse déclaration. Que tout cela convenait à Dieu. C'était approprié pour Dieu de faire cela. C'était approprié à son caractère glorieux. Voici un évangile, voici une voie de salut qui apporte la gloire à Dieu, qui attire nos cœurs pour l'adorer, lui et lui seul. Pourtant, il existe aujourd'hui des personnes qui disent tout le contraire. Ils disent « c'est indigne de la part de Dieu de tuer un innocent ». Ou alors « cette religion du sang et de la souffrance est inappropriée pour un Dieu d'amour ». L'idée d'un Dieu qui tue son fils est repoussante. Mais on ne peut pas dire ce genre de choses quand on réalise que tout cela a été fait pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Il n'y avait pas d'autre moyen, il fallait qu'un homme meure, mais il fallait que cet homme soit parfait. Une telle critique ne reconnaît pas la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Augustin écrivait « La croix est une chaire ou un pupitre dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ prêchait son amour au monde. Voilà l'amour de Dieu à un degré infini. Voilà jusqu'où il était prêt à aller pour accomplir ses desseins. » Comme on l'a lu tout à l'heure. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Un commentateur dit que cette vérité nous élève au sommet de l'étonnement. Quel amour pour les hommes qui pousse le Père à faire payer à son propre Fils le prix complet de sa sainte colère, afin que nous n'y goûtions jamais. Ce fut l'étonnement de l'apôtre Jean quand il écrit « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » 1 Jean 4, verset 10. Et cela explique pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Il n'a pas honte parce que notre salut rend gloire à Dieu, son Père. Il n'a pas honte parce qu'il a pris notre humanité pour que nous puissions voir, nous puissions partager sa gloire. Il n'a pas honte parce que nous sommes si aimés de lui qu'il est mort pour nous, afin que par la puissance de la résurrection de Dieu, il puisse vivre avec nous pour toujours. Et même maintenant, il apporte beaucoup de fils à la gloire, des enfants de Dieu qui sont unis par la foi à lui-même. Et comme c'est la coutume de l'auteur, il prouve ce point avec des citations de l'Ancien Testament. La première est tirée du psaume 22, qui anticipe avec précision les souffrances et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et ces paroles viennent après la souffrance, quand le psalmiste était sûr de la délivrance. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ a loué son Père après sa résurrection d'entre les morts. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ça nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ est le vrai chantre des psaumes. Ces psaumes ont été écrits d'abord et avant tout pour lui. Mais le psaume fait aussi un point théologique important. Le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité non seulement pour nous sauver, mais pour faire de nous des véritables adorateurs de son Père. Et cela se réalise dans son Église aujourd'hui. Littéralement, ce verset 12 dit « Je te célébrerai au milieu de l'Église, de l'assemblée des frères, de l'assemblée des croyants. » Et le verset 13 présente deux versets du chapitre 8 d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe avait exhorté le peuple à faire confiance au Seigneur, mais il a été rejeté par sa propre génération. Dieu lui a promis des fils qui suivraient dans la foi, pointant finalement vers une vierge qui serait avec un enfant. Et à la lumière de ces promesses, Ésaïe s'est écrié, Ésaïe 8, versets 17 et 18, « J'espère en l'Éternel. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Et en mettant ces paroles dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit-Saint nous dit que, comme les enfants d'Ésaïe, nous sommes le témoignage de la fidélité de Dieu dans notre génération. Nous sommes des enfants de Dieu, unis par la foi au Seigneur Jésus-Christ, appelés à témoigner parmi cette génération actuelle de la réalité du salut qui vient par Jésus-Christ seul. S'il convenait à Dieu d'envoyer son Fils mourir sur une croix, comme il est approprié pour nous d'être ses témoins dans notre génération, comme il est approprié pour nous de porter le mépris du monde comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Non pas tout seul, mais avec la puissance que nous donne l'Esprit de Dieu. Comme il est approprié pour nous de chanter les louanges de Dieu dans la plénitude de nos cœurs, de proclamer son nom, non seulement aux frères, mais devant le monde entier. Afin qu'il, alors qu'il fait entrer d'innombrables d'autres personnes dans sa famille. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Il nous a envoyé son évangile pour annoncer la voie qui a été ouverte, cette voie de réconciliation avec Dieu par la foi seule en Jésus-Christ. La question c'est, est-ce que nous avons honte de lui ? Est-ce que nous avons honte de le dire au monde? L'apôtre Paul écrit à Timothée, en 2 Timothée 1, verset 8 et suivant, il dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation. Et un peu plus loin, il dit, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Puissions-nous aussi être sans honte dans notre témoignage pour Jésus-Christ, pour son évangile, et que dans sa grâce, le Seigneur utilise notre témoignage pour apporter d'autres, amener d'autres à le connaître, des hommes, des femmes, à être réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour la louange de son nom. Que Dieu nous aide à saisir, à comprendre ces choses, et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.